Connaissant à l'Université Paris-Cité, président de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent et fondateur de l'Institut contemporain de l'enfance, pour l'indiquer que les titres officiels principaux. Lors de nos derniers échanges, tu t'es étonné que nous n'ayons pas imaginé un intitulé pour ce moment du congrès. Peut-être avions-nous envie de nous distinguer de l'aspect magistral du modèle de la conférence. En tout cas, pour ma part, j'avais été largement influencée par mon écoute de la rencontre auteur que la plateforme Kern a organisée pour toi récemment, un entretien auquel tu répondais librement aux questions de ton intervieweuse. D'ailleurs, toi-même, tu nous as indiqué, lors de notre échange, qu'au-delà des grands thèmes que je t'avais proposés, tu ne souhaitais pas connaître nos questions à l'avance, pour laisser place à davantage de spontanéité, ce qui nous convenait parfaitement. J'aimerais dire aussi que si nous avons eu le désir de t'inviter, c'est sans doute en lien avec le fait que tu nous apparais assez souvent dans des textes proches de la problématique de notre colloque. Je pense en particulier à cette citation de ton chapitre « Les mains, le bébé et le chef d'orchestre ». Entre mère et bébé, un travail de chef d'orchestre a double sens. Dans l'ouvrage « Le bébé, la sensorialité et la créativité » que tu as co-signé avec Victor Guerra en 2019. Je cite « J'ai souvent dit que même les bébés ont besoin d'une histoire qui ne soit pas seulement une histoire médicale, génétique ou biologique, mais qui soit aussi, et peut-être surtout, une histoire relationnelle. Elle seule leur permet en effet de s'inscrire dans leur double filiation, maternelle et paternelle, et de mettre en œuvre le processus d'affiliation, filiation et affiliation, qui se trouvent mutuellement dans un rapport dynamique dialectique, sur lequel insiste beaucoup un auteur comme Serge Lebovici. La filiation permet l'affiliation, et la filiation permet l'inscription de la filiation. Nous disposons ainsi d'1h15 ensemble. Nous avons préparé, Bernard Pechberthier et moi-même, un petit nombre de questions, mais qui pourraient peut-être t'amener et nous amener très loin. Mais nous tenterons néanmoins de garder un petit temps pour que vous puissiez, pour que tu puisses répondre à des questions de nos auditeurs. Alors ma première question, un petit peu longue, dans un court texte que tu as intitulé « La transmission comme outil de liberté ». Tu te souviens de ce texte, écrit en 2014. Tu écris « Mes plus grandes joies professionnelles auront sans doute été liées à des moments où j'ai pu avoir le sentiment de transmettre aux étudiants un plaisir de penser et une certaine liberté de penser. » Dans ce texte, dont je me suis sentie très proche comme ex-enseignante universitaire, moi aussi, tu fais remarquer qu'en matière de formation, l'étudiant s'identifie moins aux connaissances transmises qu'au rapport que le formateur entretient avec le savoir en tant que tel et avec sa propre psyché. Avec ce propos, nous voici au cœur des réflexions de certains d'entre nous sur la question du rapport au savoir et notamment sur sa construction par un sujet en lien avec son histoire personnelle et familiale. Nous avons l'habitude, à la suite de nos prédécesseurs qui nous ont largement influencés sur cette question, comme Jackie Bayrou principalement, de réfléchir dans nos recherches et de faire élaborer les professionnels avec lesquels nous travaillons, enseignants, formateurs, cadres du travail social ou de la santé, sur leur histoire psychique en termes de rapport au savoir, mais aussi d'élaborer pour nous, chercheurs cliniciens, universitaires, cette question. Ainsi, je t'ai entendu raconter deux scènes de ton enfance qui, à tes yeux, sont significatives dans tes choix professionnels en particulier. Peut-être que tu pourrais les partager avec nous pour nous faire appréhender comment tu en es venu à ne pas être chef d'orchestre, mais pédopsychiatre. Tu pourrais peut-être les partager avec nous pour nous aider à comprendre ce qui t'anime et ce qui t'a conduit notamment vers la question centrale du bien dans toutes tes théorisations. Nous serions ainsi au cœur d'un des thèmes de notre colloque.
Confidence publique. Ce qui est un petit peu en dehors de ma réponse,
c'est d'abord de dire le grand plaisir que j'ai d'être là. C'est un honneur aussi un peu intimidant de clôturer, ou à peu près clôturer, un colloque aussi important que celui-ci. Et remercier donc beaucoup Claudine d'avoir contacté dans cette perspective. J'ai tout de suite accepté parce que je trouve que le sujet est vraiment d'importance. Aussi, si je peux me permettre, il y a quelque chose qui est un tout petit peu au marge de la réponse. C'est un tout petit échange que j'ai eu avec Marcello. Je ne pensais pas à l'interface.
C'est avec moi?
Oui.
D'accord. C'est assez approximatif. Oui. Leandro.
Leandro. Excusez-moi.
Mais Leandro, ça marche.
Ça marche. Excusez-moi. Mais je pense qu'on est déjà un petit peu, mais c'est vrai que erreur de prénom par rapport à la table ronde. Mais j'ai trouvé très intéressant ce que tu avais dit, et j'ai relevé une toute petite imprécision de traduction, mais qui en fait a des conséquences importantes. C'est que Goethe, et ça je l'ai vu ici, c'est rapporté souvent, a dit, enfin dans la traduction française en tout cas, c'est sur avec celle-ci qu'on travaille, nous, ce que tu as hérité de tes pères, non pas acquiert-le, mais conquiert-le. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a une dimension active qui est tout à fait différente et qui rejoint la question de l'héritage sans testament. Parce que, voilà, le bébé arrive dans un monde qui le précède, c'est évident, un monde où il y a déjà de la pensée, où il y a déjà du langage, où il y a déjà des relations structurées, que ce soit dans sa famille ou dans son groupe social. Et en fait, chaque bébé va avoir activement à reconstruire quelque chose de tout ça. Et c'est pas une perfusion transcendante. Hein. Il a le bébé dans ses interactions avec les personnes qui s'en occupent, qui prennent soin de lui, doit activement travailler pour s'approprier les processus de symbolisation, pour devenir un locuteur de sa langue et pour trouver sa place dans sa famille d'aujourd'hui, affiliation. Et dans l'histoire de sa famille, filiation paternelle et filiation maternelle. Et donc là, il y a quelque chose de très très important pour nous qui nous occupons de bébés et d'enfants et d'adolescents, c'est que cette dimension active, elle donne une troisième vision aujourd'hui de la croissance et de la maturation psychique du bébé. Je répondrai à la question. Mais quand même là, c'est tellement, ça fait un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. Pendant très très longtemps, on a considéré que le bébé recevait tout de l'extérieur. C'est même pas acquérir-le, là, ça va rentrer en toi, comme ça, de manière un peu...
Oui, par osmose.
Par osmose, oui, absolument. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose de différent, qui est que le bébé arriverait avec toute une série de savoirs, comme au niveau de la langue, par exemple, et qu'il va devoir spécifier, et Jacques Meller disait apprendre, c'est désapprendre, c'est laisser de côté ce qui ne lui sert pas, par exemple, au niveau des phonèmes, au niveau de la langue, processus de la langue, et pour stabiliser et bien ancrer les choses dont il a besoin. Il y a un livre qui vient de sortir chez RS, dans la collection Milliard Bébé, de Erika Parlato Oliveira, qui s'appelle Le bébé et ses savoirs, et qui montre très bien comment on est passé d'une vision des apprentissages du bébé de moins vers le plus, l'accumulation de connaissances, à une vision différente du bébé, de l'apprentissage du bébé, qui est du plus vers le moins, c'est-à-dire laisser de côté un certain nombre de compétences pour travailler sur les compétences plus fines, plus précises. Et là, avec cette histoire de conquérir un héritage, même sans testament, c'est encore autre chose, c'est le bébé qui devient co-acteur de son développement et de son processus aussi d'apprentissage. Je pense que ça, peut-être, il peut y avoir des résonances par rapport à la transmission en général, aux différents âges de la vie. Voilà, alors j'en viens à la question qui m'est posée pour commencer. Tu me demandais comment je ne suis pas devenu chef. Et ça pose la question. C'est intéressant, du désir, bien sûr, et de l'autre. C'est-à-dire que bon, je faisais du piano depuis toujours. C'est peut-être ces deux souvenirs-là auxquels je pense. Bon, juste pour l'anecdote, j'ai une sœur aînée qui faisait du piano avant moi. Et donc, j'étais très passionné à 3-4 ans. Quand le professeur venait à la maison lui donner sa leçon de piano, je me cachais sous le piano pour entendre, écouter. Voilà. Puis un jour, le professeur de piano, ma soeur, a dit bah, si ça l'intéresse tant, on n'est pas obligé d'attendre 6 ans ou 7 ans et on peut essayer de commencer. Et dans le même appartement et à la même époque, alors là, reste pour un lien plus sexuel de l'histoire. mon père était gynécologue obstétricien. Et avant de travailler ailleurs, il avait une pratique libérale à la maison, et donc un cabinet, où il recevait ses patients pour les examiner. Et là aussi, vous allez dire que c'est une obsession, je m'étais caché sous la table d'examen. Mais c'est aussi, là, c'est pas pareil, parce que sous le piano, on entend, sous la table d'examen, on ne voit rien. Donc, c'est pas tout à fait le même dessous. voilà, donc j'avais commencé le piano très tôt, je n'ai jamais arrêté, même pendant les périodes un peu plus chargées de ma vie du point de vue examen, etc. Et c'est vrai que j'avais assez envie d'aller vers la musique, enfin j'hésitais. Je dois dire d'ailleurs que si j'avais choisi chef d'orchestre ou musicien, sans doute mes parents m'auraient laissé faire, hein, même si à l'époque ça avait un petit peu moins de... C'était moins sécurisant sans doute pour les parents que leur fils devait être chef d'orchestre ou médecin, enfin bon, je crois qu'ils m'auraient laissé faire. Voilà, et donc j'avais 13-14 ans, un peu plus, 14 ans, disons. Et j'ai été voir une musicienne de l'école normale supérieure de Paris, et en lui parlant de mon désir, elle m'a fait jouer du piano, on a parlé de la musique, on a parlé de ce métier. C'était en juillet, on m'en rappelle très bien, sans doute parce que c'est marquant. Et donc je connaissais bien la clé de sol pour la main droite, la clé de phare pour la main gauche, mais les pianistes ne connaissent que deux clés. C'est dont on a besoin, là. Hein. Alors je ne sais pas si on est... avec toutes les clés en tête et qu'on écarte, on n'en a pas besoin. Mais on avait enfin, en tout cas, elle avait appris ces deux clés, qui ne sont que les clés de fin. Et elle m'a dit, bah oui, c'est pourquoi pas. Mais à ce moment-là, revenez me voir en septembre, et il faut que vous en sachiez 4 très bien. C'est difficile d'apprendre une nouvelle clé. Hein. Et en fait, j'ai compris le défi, mais en fait, j'ai entendu ce défi comme le fait que je n'y croyais pas vraiment. Et je n'ai pas relevé le défi. Et donc j'ai laissé tomber. Et j'ai laissé tomber, après, bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi, soit parce que mon désir était insuffisant, soit parce que j'ai projeté dans l'autre quelque chose d'un regard que j'ai mal compris. Bref, je ne suis pas devenu chef d'orchestre, mais je continue à faire la musique, je ne reviens pas. Et surtout, je me suis, je crois, occupé des équipes dont j'ai la responsabilité, un petit peu dans cette perspective-là qu'on a peut-être évoquée. C'était ça les deux souvenirs du personnel.
Alors moi ça fait envie de vous poser une autre question.
Les prêtres,
le micro.
Pardon, est-ce qu'il faut fermer?
Oui, j'aimerais de vous poser une autre question, effectivement, bon, un peu directe, mais comment s'est passée votre rencontre avec la psychanalyse? Comment ça s'est fait? Qu'en diriez-vous aujourd'hui? Le thème du colloque, filiation, filiation.
Alors en fait, à l'époque où j'ai commencé mes études de médecine, on pouvait, et on ne peut plus aujourd'hui, et je pense que c'est un peu dommage, on pouvait à la fois travailler pour devenir pédiatre et pédopsychiatre. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu impossible, la filière est d'emblée différente. Et je savais que je voulais devenir pédopsychiatre, mais quand même j'avais un petit peu envie d'aller voir ce qui se passait au niveau du corps, des maladies somatiques, du corps. Voilà, j'étais intéressé par des liens déjà entre le corps et le psychisme. Mais je savais que je voulais devenir pédopsychiatre. Psychiatre d'adulte, non, même si j'avais côtoyé la maladie mentale dans ma famille d'assez près. Et pédiatre, c'est aussi lié, bon, je ne vais pas aller très dans ces confidences-là, mais la mort d'une petite sœur qui m'a évidemment beaucoup marqué et qui entre dans l'histoire. Hein. Je le prête à Pierre. Et donc pédiatre, c'est l'obstacle. Et puis, à partir du moment où vous n'avez pas choisi d'être chef d'orchestre, mais médecin, il me fallait, je continue encore dans les confidences un petit peu, il me fallait une profession médicale qui ne soit pas somatique, comment dire, pour aller vite parce que j'ai que 6 minutes, entre guillemets, pour déplaire un petit peu à mon père, qui ne croyait quand même qu'à la médecine MCO, comme on dit aujourd'hui, médecine, chirurgie, obstétrique, mais la médecine psy, ça lui paraissait quelque chose un petit peu plus flou. Mais voilà. Donc, j'avais entendu parler de ce psychanalyse dans mes études, et parler de l'inconscient en famille avec quelque chose un tout petit peu transgressif, et qui m'a beaucoup stimulé. Ça vous suffit comme.
Alors, du coup, ça peut nous
mener
du côté de filiation.
Alors, attendez, juste une chose par rapport à ça. Dans le parcours de pédopsychiatrie de l'époque, il n'y avait pas tellement, dans les services hospitaliers universitaires, il n'y avait pas tellement, à Paris, j'étais à Paris, il n'y avait pas tellement de services, il y avait la salpêtrière, l'équerre, la plupart à l'époque étaient des services psychanalytiques. Je dis parfois que les racines de la pédopsychiatrie en France, hein, chaque pays a son histoire et sa culture, c'est un peu différent sur le pays, mais en France, les racines de la pédopsychiatrie sont très psychanalytiques. Aux étudiants, pour qu'ils s'en souviennent, je leur dis, elles sont même psychédéliques, LSD, les Bovicis ou les Liapkines. Si vous avez bien lu les Bovicis ou les Liapkines, vous avez une très bonne vision des racines psychanalytiques. Psychiatrie en France, évidemment, pas partout pareil. Voilà, et j'avais entendu parler de tout ça, et puis on était obligé de passer dans les différents services, et je suis passé à Necker, dans un service, un des rares services de l'époque qui non seulement n'était pas psychanalytique, mais qui était très anti-psychanalytique. Le chef de service de l'époque, je ne sais pas si ça dit encore quelque chose aux uns et aux autres, s'appelait Pierre de Noël-Zen, qui s'illustrait dans le combat, vraiment, on pourrait être presque un peu haineux entre la psychanalyse, comme ça existe encore aujourd'hui, ici ou là. Voilà, et donc, mais passer chez lui m'a été très utile, parce que ça m'a fait gagner du temps. Très vite, j'ai su ce que je ne voulais pas faire. C'est exactement la pédopsychiatrie que j'ai eue à Necker à ce moment-là, que je ne voulais pas faire. Et donc ça m'a renforcé dans mon idée d'avoir plutôt du côté de l'inconscient, de l'analyse, du désir, des défenses, des développements. Et à ce moment-là, on m'a donné un peu. Non. Il y avait, un petit, pour se former, un petit peu le choix. Le paysage s'est un petit peu élargi depuis. Mais il y avait surtout la SPP et surtout l'APF. Voilà. Et la SPP, donc j'ai fait rencontrer des personnes qui me parlaient de ça. Et la SPP, j'avais retenu l'idée que c'était une grande maison avec pas mal de monde, mais un peu médicale. Et comme je cherchais une médecine pas trop médicale, et puis de l'APF, quelqu'un m'avait dit, enfin c'est, il n'est pas non caché son nom, d'ailleurs c'était quelqu'un tout à fait formidable à l'époque, Pierre Baïsana, un psychanalyste de l'époque, il m'a dit l'APF, c'est moins médical, il y a plus de philosophie, il y a plus de place à l'art, il y a plus de... Et donc, mais par contre, c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus long. Et parce qu'effectivement, à l'APF, on accepte des formations, des candidats qui viennent d'autres divans, comme on dit, qui est non l'APF, mais cette espèce d'ouverture à l'entrée se paye en paix aussi en difficulté de sortie, hein, si je puis dire. Et c'est très long, c'est plus long la formation à l'APF qu'à la SPP. Et personnellement, les deux supervisions doivent être successives et chacune menée très assez longue. Enfin, actuellement, le temps moyen de formation à l'APF est de 12, 13 ou 14 ans. Hein, ça va un petit peu plus vite à la SPP. Bon, c'est une parenthèse pour dire que c'est quasi suffisant parce qu'un jour, il va falloir inventer un titre de psychanalyste à titre posthume. dans les difficultés de la psychanalyse d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même penser à cette. Voilà, et alors, j'ai choisi l'analyste de l'APF, et sans savoir, ça c'est incroyable, sans savoir, je ne savais pas à l'époque qu'il était un grand connaisseur de la musique. C'était Guy Rosenberg, qui a écrit beaucoup de choses sur la musique, et ensuite la musique a occupé une certaine partie sur mon travail éthique avec lui, et c'était vraiment sans savoir, ou sans savoir forcément en tout cas.
Et tu continues à te reconnaître dans cette affiliation à l'APF ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que en ce moment, et même je m'y implique en ce moment dans ce qu'on appelle un ARC, c'est un atelier de recherche clinique et conceptuelle qui a été organisé par Dominique Suchet, qui est la présidente actuelle de l'APF. Et on travaille avec elle, Christophe Dujour, sans doute beaucoup d'entre vous le connaissent aussi, et moi. Et c'est un atelier que je trouve très intéressant. Pour la première fois, l'APF se demande qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que, pour se laisser jouer devant nous depuis des années, la destitution progressive de la psychanalyse dans toutes les instances, sans réagir, en disant que ça ne nous concernait pas et qu'on n'était pas dans l'espace social. Et là, je pense qu'il y a une... Alors, Christophe de Jour nous dit, de manière un peu provocante, mais réaliser la Boétie, c'est la servitude volontaire. Alors, je ne sais pas si c'est à ce point-là une servitude volontaire, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, quand même, et qu'il faut bien analyser pour se reprendre et essayer de remonter le fil des choses.
J'imagine que si tu te reconnais dans cette affiliation, elle n'est pas enfermante pour toi, parce que je vois ces derniers temps comment tu coopères avec Sylvain Missonnier, qui lui, si je ne me trompe pas, est un SPP.
Oui, c'est une double coopération, parce qu'il y a lui, SPP, moi, APF, et puis une psychologue, et moi, la pédopsychiatre. Et il me semble que la pédopsychiatrie, enfin les soins psychiques, autour du bébé, de l'enfant et de l'adolescent, doit absolument être ouvert et fondé sur une collaboration psychologue-médecin très étroite. Encore tout à l'heure, tu as eu la gentillesse de dire que j'avais fondé l'Institut contemporain de l'enfance. C'est un espace qu'on a imaginé pour penser le soin psychique des bébés, des enfants et des adolescents. Ça, c'est pour les bébés, les enfants et les adolescents en grande souffrance psychique, mais aussi pour penser le prendre soin des bébés, des enfants et des adolescents. Ça concerne tout le monde, même ceux qui ne sont pas enfants. Le soin psychique, en anglais, c'est to cure, et le prendre soin, c'est to care. C'est le prendre soin, même pour les enfants qui n'ont pas de pathologie particulière, prendre soin d'eux pour les aider dans leur développement. Et on peut le faire, effectivement, de manière très, très affichée clairement, de manière transdisciplinaire, à la psychanalyse bien sûr, à la psychopathologie, ou plutôt aux psychopathologies diverses, à la pédagogie, dont on en a parlé, Marie Latorre tout à l'heure, et puis surtout une ouverture sur le monde des arts et de la culture, parce qu'il y a vraiment une dialectique à approfondir entre la créativité thérapeutique et la créativité artistique. Donc dans cet espace-là, c'est vraiment une collaboration transdisciplinaire, mais être à l'APF ne m'interdit absolument pas. Je ne le sens pas du tout comme une enfermante.
Et est-ce que tu pourrais parler de tes prédécesseurs, comme tu as évoqué déjà Serge de Bouvissier?
Alors, oui, je peux en parler absolument. Merci beaucoup de cette question, parce qu'en ce moment, la pédopsychiatrie, vous le savez, va très mal. Alors, bien sûr, il y a sans doute assez peu de pédopsychiatres ici, mais je veux dire, c'est un symptôme qui nous concerne tous. Comme je ne suis pas enfermé à l'APF, de janvier à juin, j'ai accepté une mission d'expertise à la Cour des comptes pour un rapport sur la pédopsychiatrie. C'était d'ailleurs pas mal qu'un psychanalyste puisse répondre à ça, parce que dans le contexte actuel, ce n'est pas non plus de violence. Mais... Voilà, et on a vraiment bien travaillé, le rapport va sortir en fin d'année ou au début d'année, pour savoir à quel point la situation est catastrophique. Et si la pédopsychiatrie est en crise à ce point-là, il y a de multiples raisons, bien entendu, mais il y a une des raisons, c'est la coupure qu'elle a opérée avec la psychanalyse. Et là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Quand la pédopsychiatrie se coupe de la psychopathologie et de la psychanalyse, elle s'affaiblit elle-même. Vous savez, il y a trois grands modèles, les troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, et le modèle somatique, pédiatrique, très linéaire, factoriel et déductif. Il y a le modèle psychanalytique, polyfactoriel, les séries complémentaires de Freud, inférentielles et avec une temporalité circulaire. Et entre les deux, le modèle pédopsychiatrique se cherche, selon les pays, selon les époques. Dans les pays anglo-saxons, en ce moment, le modèle pédopsychiatrique se veut très proche du modèle médical. En France, dans le sud de l'Europe aussi, en Amérique du Sud, le modèle pédopsychiatrique est plus proche du modèle psychanalytique et psychopathologique, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Cette coupure a été très dommageable pour la pensée pédopsychiatrique. Et là, on s'aperçoit que là, c'est la troisième génération. Puisque les fondateurs en France, c'est donc les Bonissis ou les Dietkin, j'en dis un petit mot parce que j'ai eu un privilège incroyable, c'est Soulet, c'est Michel Soulet qui m'a formé cliniquement au tout début de mon internat, donc je me rends compte à quel point là, ça a été vraiment pour moi précieux. J'ai rencontré Saint-Germain ici beaucoup plus tard. J'avais déjà été plus loin, moi j'étais plus chef de clinique et même au-delà. Et lui m'a plus appris, mais c'est très important aussi, comment on peut, dans les groupes et dans les institutions, faire progresser quelques idées. Alors il était très tenace, mais très patient aussi. Et il me disait, maintenant, vous savez, pour avancer de 5 mm, il faut 10 ans encore. D'accord, mais on peut quand même. Hein. Les choses changent malgré tout. Et puis, donc ça a été une deuxième rencontre très importante. Et la troisième, sur un autre plan, René Descoux, je l'ai rencontré plutôt sur le plan éditorial de la revue de la psychiatrie de l'enfant. Donc maintenant, j'ai la responsabilité avec Mario Moro, qui est venu ici. Et c'est lui qui l'avait fondé avec Serge Bovici, avec Rosine Crémieux, avec Ajoria Guérard à l'époque. Voilà, et donc, j'ai rencontré René Descoux. Donc c'est pour moi trois personnages vraiment qui m'habitent en permanence. Alors ça, c'est la première génération qui a fondé en France la pédopsychiatrie. La deuxième génération a été une génération qui a transmis plutôt les premières bases en essayant de les diffuser vers les professions alliées, c'est-à-dire les pédiatres, enfin tout le monde de l'enfance, les psychologues bien sûr, les orthophonistes, les psychomotriciens. La deuxième génération a été très porteuse de ce que la première avait fondé, et la troisième, je crois que c'est souvent comme ça dans les groupes et les familles, d'ailleurs c'est la troisième qui est en mal d'identité. Mmh. La troisième génération en ce moment est en mal d'identité très profond. Qu'est-ce qu'un pédopsychiatre? Quelle est la valeur ajoutée, quand on dit, d'un pédopsychiatre par rapport à une psychologue ou un psychologue, on ne sait plus. Les psychologues très bien formés sont tout à fait aussi précieuses. Les pédopsychiatres ne veulent pas se reconnaître simplement dans le fait de pouvoir prescrire des médicaments que les psychologues ne peuvent pas prescrire. Quel modèle on peut partager, voilà. Donc cette troisième génération est en mal d'identité, mais il faut qu'on retrouve nos liens avec les psychopathologues, la perspective psychopathologique et psychanalytique.
Oui, je me demandais, Bernard Gotch, comment votre formation de médecin, de psychiatre, de pédopsychiatre et puis de psychanalyste, vous avez ou non aidé à faire des liens entre les savoirs, qui font partie de vos formations, et la psychanalyse que vous inscrivez dans les sciences thérapeutiques. Vous écrivez qu'il n'y a pas à se méfier par principe des avancées des neurosciences et des liens possibles avec la psychanalyse dont vous montrez la modernité. Alors moi je trouve comme lecteur que vous favorisez des passerelles, des ponts, sans confusion entre les savoirs, plutôt que des clivages étanches entre ces choses. Les écrits que vous avez produits sont multiples à ce niveau-là, hein, de Véronne neuropsychanalyse, épistémologie et méthodologie en psychanalyse et psychiatrie. Donc, sur cette question de plusieurs savoirs que vous avez traversé.
Alors écoutez, j'ai déjà hésité entre chef d'orchestre et médecin, mais je n'ai jamais eu aucune tentation pour être pape. Le clinisme ne m'intéresse absolument pas parce que là on est dans le domaine des compromis et des confusions. Alors je vais essayer de m'expliquer un petit peu. D'abord, c'est vrai que la question du lien est tout à fait centrale dans ma démarche depuis toujours. Hein. J'ai déjà dit tout à l'heure qu'en cherchant à être, en formant à la pédiatrie avant de devenir pédopsychiatre, c'était quand même déjà un intérêt pour le lien entre le corps et le psychisme, ça je l'ai dit. Mais après, il y a trois domaines qui m'ont vraiment habité tout au long. C'est le bébé, le développement précoce de l'appareil psychique chez l'enfant. C'est l'autisme, et ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du spectre autistique. Et troisièmement, l'adoption, parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été formé par Michel Soulet. Michel Soulet avait été l'un des pionniers de la réflexion en France sur les enjeux les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption. Donc, comme lui, je suis devenu, j'étais longtemps membre du conseil d'adoption, puis surtout quelque chose que je connaissais, c'est pendant quelques années, j'ai eu la responsabilité du CNAO, du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui depuis 2002 essaye d'aider les personnes nées sous X, c'est-à-dire nées sous secret et sous anonymat, à retrouver quelque chose de leur histoire, et de leur histoire biologique, mais narrative aussi. Voilà, et donc ce sont trois domaines distincts, le bébé, l'autisme, l'adoption, mais vraiment, je vous reviens, c'est pas un jeu de mots du tout, ce qui fait le lien entre ces trois domaines, c'est la question du lien. Puisque étudier la mise en place de l'appareil psychique chez les tout-petits, c'est en grande partie réfléchir à la manière dont il va établir ses premiers liens avec l'environnement et comment il va pouvoir se les représenter mentalement. L'autisme, les autismes sont des situations très douloureuses où les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces liens. Et l'adoption est une situation un peu paradigmatique où on peut regarder comment un enfant va mettre en place ces fameux liens avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqué, mais qui se positionnent pour lui, qui vont se positionner pour lui la vie durant, comme ses parents. Donc le lien est vraiment transversal déjà dans les domaines, dans les thématiques privilégiées. Donc faire des liens entre différentes disciplines, pour moi, est tout à fait naturel. Et c'est vrai qu'il faut toujours réfléchir à la question de quel type de lien et comment ne pas céder aux compromis, compromissions et amalgames. Alors, à ce sujet, c'est pas court, hein, mais c'est la question qui me vient là. Moi, je dis toujours transdisciplinaire. Je ne dis pas multi ou pluri ou inter. Parce que je pense que ce n'est pas la même chose. Multi ou pluridisciplinaire, c'est déjà mieux d'être tout seul. Je pense à des situations cliniques médicales, non ? Mais on se retrouve à plusieurs. Chacun amène et dépose son savoir, mais c'est une espèce de mosaïque, une juxtaposition horizontale et sans lien, sans joint. Une mosaïque sans joint. C'est déjà mieux que rien, mais c'est quand même une mosaïque sans joint. Pour moi, l'interdisciplinaire cherche déjà à une addition des savoirs, non pas simplement à une juxtaposition des savoirs, mais le fin du fin. Pour moi, c'est la transdisciplinarité. C'est-à-dire des personnes, ça rejoint la phrase de Saint-Germain tout à l'heure, des personnes qui viennent d'horizons théorico-cliniques différents, qui ont leur identité professionnelle propre et spécifique, et qui s'avancent les uns les autres sans peur pour essayer. Une expression peut-être un peu familière, mais de trouver le joint. C'est-à-dire justement de trouver le joint de la mosaïque et d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on dit pareil avec des mots différents, qu'est-ce qu'on dit de pas pareil avec parfois des mots semblables, et comment on peut goupiller tout ça ensemble sans perdre son identité personnelle spécifique, mais pour essayer de faire surgir de nouveau aux interfaces justement des différentes disciplines. Alors, il y a une quatrième possibilité, je ne sais pas si Marie-Rose en a parlé quand elle est venue, ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais la quatrième possibilité, c'est le complémentarisme de Georges de Broglie. Et le complémentarisme, évidemment, ça c'est du point de vue de la méthode, c'était une avancée tout à fait spectaculaire. La seule chose, c'est que dans le complémentarisme, et Georges de Broglie y assiste beaucoup, il faut que ça va rejoindre un problème de formation, ça. Il faut que la personne ait en tête plusieurs approches. C'est d'ailleurs ce qui définit pour Winnicott l'objet épistémique. Un objet épistémique peut se laisser approcher par plusieurs voies. Mais il faut donc que le clinicien, le chercheur, ait différentes approches dans sa tête, possible, ou qu'il y ait une rencontre entre plusieurs personnes qui chacune représente une approche différente. Et en réalité, De Broglie ajoute cette petite phrase qui est un peu limitante, il dit mais on ne peut quand il faut réunir tout ça, mais dans l'instant, on ne peut se servir que d'une discipline à la fois. Et moi, je rêve de quelque chose qui est peut-être utopique, qui serait de quelque chose de plus orthogonal, où chacun arrive avec ses références, et où on pourrait, sans rabattement, sans confusion, c'est pour ça que je dis orthogonal et pas simplement perpendiculaire dans le même plan, où on pourrait ensemble se servir de différents points de vue. Dans les moments un peu sacrés de la transdisciplinarité, on y arrive. Alors, là, ça rejoint un problème central dans la formation et dans l'enseignement ou dans la formation, c'est que la formation et la transmission dans le domaine médical MCO, médical, chirurgical, obstétrique, et dans le modèle médical psy, n'est pas. Il y a quelque chose qui diffère beaucoup, c'est que si vous prenez l'exemple d'un cardiologue, vous ne lui demandez pas de savoir toutes les théories sur l'infarctus du cœur. Vous lui demandez de savoir celle qui aujourd'hui est la plus pertinente, la plus moderne et qui va permettre de déclencher des soins efficaces. Alors que nous, dans notre modèle psychopathologique ou psychanalytique avec une pensée plus inférentielle, on a besoin d'abord de se remplir le cerveau, de la tête, le psychisme, de toute une série d'auteurs, Anna Freud, Mélanie Klein, Lacan, tout sans amalgame, et les connaître. Parce qu'il se trouve que, c'est ça qui est très passionnant, c'est que chaque, moi je dis chaque enfant parce que je m'occupe surtout d'enfants, mais disons chaque bébé, chaque enfant, chaque patient, sans qu'on sache bien comment ni pourquoi d'ailleurs, va nous tirer plutôt d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, tel enfant va nous rendre plus nicotien qu'un autre, tel enfant va nous rendre plus plénien ou plus anaphrodien, je ne sais pas toujours exactement pourquoi, mais si je ne connais pas ces différents auteurs, il me tirera nulle part. Donc je veux dire, forcément la formation est beaucoup plus complète, parce qu'il faut se vivre, se remplir la tête de toute cette histoire théorico-clinique qui est un trésor. Et dans la rencontre ensuite, il faut oublier tout ça et rencontrer l'enfant qui va nous tirer d'un côté ou de l'autre. Bion, que j'aime beaucoup, disait quand on rencontre le patient, il faut avoir la tête vidée. Mais vidée, mais vidée, ça ne veut pas être... Pour la vider, il faut qu'elle ait d'abord été remplie. C'est-à-dire que ce n'est pas la tête vide comme ça. C'est la culture, et puis ensuite, on oublie tout ça et chaque enfant va nous tirer du bout. C'est-à-dire que la formation. Donc, il y a un défi dans la formation. C'est que même si ces auteurs sont déjà anciens, on a besoin de les connaître pour ensuite être vivant uniquement.
Et alors donc, pour
moi, c'est un amalgame. Transdisciplinarité et orthodoxie.
Juste une parenthèse, dans mes recherches, moi j'ai utilisé codisciplinarité. Je raconterai quelque chose. Alors, dans la même liste de la question de Bernard, je me souviens que tu avais écrit un avant-propos au livre dirigé par Sylvain Missoni en 2005, Récit, attachement et psychanalyse. Et ça avait retenu mon attention à l'époque, où vous avanciez l'hypothèse que la qualité de la narrativité s'enracine profondément dans la qualité des liens d'attachement précoce. Et vous ajoutiez que la narrativité était à mettre au rang des processus de liaison, donc on sait bien que la fonction antitraumatique, donc on connaît bien la fonction antitraumatique, et la narrativité apparaissait comme le maillon essentiel de la construction du self. Vous y souteniez déjà que la narrativité était en mesure de conjoindre la théorie de l'attachement et la psychanalyse.
Oui, je m'en rappelle pas cette phrase exactement, mais en la réentendant, je vois bien ce qu'on a voulu dire. Et je vais quand même essayer de répondre à ça dans la perspective de la thématique du congrès, qui est quand même éducation et formation.
Hein.
Oui. Parce que c'est mieux. Pour moi, narrativité, enfin pour moi et d'autres, hein, narrativité, c'est pas la narration. La narrativité, c'est pour ça que je dis là que c'était du côté des processus de liaison. La narrativité, c'est le processus qui aboutit au récit. La narration, pour moi, c'est le produit de la narration. La narration, c'est les processus dynamiques qui vont permettre l'organisation d'un récit. Évidemment, pour organiser un récit, que ce soit un récit sensoriel, un récit corporel, un récit en image mentale, un récit en mots, il faut la narrativité. Et cette narrativité, c'est un concept qui a des racines épistémologiques multiples, philosophiques, historiques, littéraires et psychanalytiques. Bien sûr, la fonction du rêve est une fonction narrative, par exemple. D'ailleurs, je dis toujours que la fonction narrative du rêve est extrêmement complexe. Elle a essayé d'inspirer le roman moderne, mais c'est une narrativité très complexe, puisque le rêveur est à la fois l'auteur du rêve, il est le metteur en scène du rêve. Je parle du rêve névrotico, normal. Le rêveur est l'auteur du rêve, il est le metteur en scène du rêve, et il est un petit peu lui dans chacun des personnages. Hein. Le roman moderne a essayé de s'inspirer de ça. C'est une narrativité très complexe, c'est tellement complexe qu'aucun psychanalyste, n'a encore entendu un patient s'allonger en disant « je vais vous raconter un rêve banal ». Nous disons tous, en famille ou à notre analyse, je vais vous raconter un rêve bizarre. Parce que même si le rêve n'est pas fondamentalement bizarre dans son contenu, il est de toute façon assez bizarre dans son ordonnancement, dans sa narrativité. C'est une narrativité complexe. Voilà, mais cette narrativité, cette capacité, cette aptitude à faire des liens pour organiser un récit, et ça, j'y tiens beaucoup, ça n'est pas une compétence neurologique. Il n'y a pas un endroit du cerveau qui gouverne la narrativité. Ça, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas la peine de la chercher. Enfin, peut-être certains s'y aventureront, mais on ne la trouvera jamais. Parce que la narrativité, elle se co-construit. Elle se co-construit entre celui, entre, disons, l'enfant, et encore, il y en a peut-être dans la question de l'enseignement et de la formation de l'éducation, elle se co-construit entre l'enfant et les personnes qui en prennent soin. Et je crois même qu'elle a besoin de trois niveaux pour se co-construire. C'est-à-dire que l'enfant raconte des choses, et le tout petit, même avant le langage, il raconte des choses avec son corps, il raconte des choses avec son comportement. C'est-à-dire c'est une narrativité pré-verbale du langage du corps, du langage de l'acte, des actes, du langage des gestes, qui durera toute la vie, bien sûr, même quand le langage est là d'ailleurs. Par exemple, moi je bouge les mains en parlant, il n'y a pas que des mots. Parce que, donc il y a une narrativité au niveau de l'enfant lui-même. Et puis il y a la narrativité de celui qui est à côté, qui pense et qui fait des liens. Dans le soin et dans les pouponnières et dans les lieux d'accueil des enfants, crèches ou pouponnières, on travaille beaucoup là-dessus. Hein, dans la perspective de l'Institut Piclavosi en particulier. Donc il y a quelqu'un qui est à côté de l'enfant et qui va penser des liens. Je peux prendre un petit exemple, ça travaille en même temps. Il y a un très beau livre de Daniel Stern, qui est un des grands noms dans notre discipline, qui s'appelle Le journal d'un bébé. Et je raconte vite, alors je déforme un petit peu, mais l'essentiel est là. Il dit, mais imaginons, parce que pour lui, le soin narratif des enfants demandait quelques mois pour se mettre en place. Et il dit, imaginons un bébé dans son lit, dans son berceau, le matin, qui voit un rayon de soleil passer sur sa côte. Bon, c'est un petit exemple, c'est autre chose. Il le regarde, il le voit, il l'inscrit dans sa mémoire comme une petite trace mnésique visuelle du moment. À midi, quelqu'un prépare un repas, il y a des odeurs différentes, il le remarque, il le note, il l'inscrit dans sa mémoire, petite trace mnésique olfactive. Le soir, la famille rentre à la maison, la mère, le père, les autres frères, les sœurs, s'il y en a, il y a des bruits, pas comme le reste de la journée, à nouveau, petite trace mnésique auditive. Et Daniel Stern, qui avait une capacité incroyable d'identification au bébé et au vécu, au point de vue du bébé, disait, mais ces trois sensations, ces trois expériences sensorielles pourraient rester absolument disjointes. Trois souvenirs. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, alors il le disait avec ses mots d'adulte à lui, bien sûr le bébé ne se le dit pas comme ça, mais le vit peut-être comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, le bébé va pouvoir se dire, tout ça, c'est moi. C'est une question énorme. C'est-à-dire faire un lien. C'était déjà moi quand il y a eu le rayon de soleil. C'était moi quand il y a eu l'odeur de la cuisine. C'était le même moi quand il y a eu les petits bruits, pas pareil. L'enfant, il n'y a aucune région du cerveau qui peut faire ça. Il faut que ce soit l'autre à côté qui pense ou qui parle et qui va le rappeler. Ben, ce matin, il y avait du soleil. Qui va la coupe, là, c'est deux niveaux absolument différents. Et j'ajoute que le troisième niveau, c'est celui des supervisions ou des analyses de pratique. C'est que celui qui a remarqué ça, et qui par exemple va aider l'enfant à faire une petite syntaxe sensorielle de tout ça. Je reprends ce mot-là de Kostas Nasikas qui travaille à Lyon et qui a beaucoup étudié la question de la narrativité aussi. Et bien, il faut que celui qui observe ces expériences et qui essaie de les mettre en lien dans sa parole ou dans sa pensée, que lui-même il puisse raconter. Alors, je ne sais pas forcément les grands-parents, bien sûr, mais c'est quelqu'un d'autre. Et les trois niveaux, on a parfois dit qu'il fallait trois niveaux pour faire, trois générations pour faire un sujet ou un psychotype. En tout cas, il faut trois niveaux pour co-construire avec l'enfant sa narrativité. Et alors, je pense aux étudiants, et j'y pense souvent, quand on fait un enseignement, quand on fait une formation, quand je reviens au début de la question, quand on leur propose quelque chose, est-ce qu'on leur propose un contenu? Bien sûr, on ne peut pas faire la base. Mais est-ce qu'on ne leur propose pas surtout d'organiser leur processus de contenance de ce qui est dit? Et chacun va agencer ça. Mais pour que l'enseignant puisse, c'est deux niveaux l'enseignant, pour que l'enseignant puisse en faire quelque chose vraiment, sans doute il faut qu'il puisse en parler à quelqu'un. Alors il y a tous les espaces informels, mais il y a tous les espaces aussi qui sont plus structurés, où ceci est possible. Trois niveaux pour la co-construction de la narrative.
Voilà.
Oui.
Oui, j'étais un peu. Il y a aussi quelque chose à quoi je répondrai, même si vous ne posez pas la question.
Allez,
on va toucher.
La question que j'avais vous poser, c'est la suivante. Il m'a semblé, alors, puisque le thème de notre colloque, c'est les filiations et les affiliations, entre autres, vous avez travaillé entre autres avec l'autisme. Il me semble que ça pose la question des non-filiations, non-affiliations. Voilà. Alors, d'une façon plus générale, vous parliez de l'adoption également. Il me semble que dans les consultations périnatales ou de l'adolescent, vous travaillez de façon à ouvrir davantage le champ de la clinique, de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux terrains qui sont explorés par vous dans ces ouvertures, et que là, vous approfondissez les questions de l'intersubjectivité, du normal comme du pathologique.
Donc, quand vous pensez au nouveau terrain, vous pensez à quoi?
Je pensais aux consultations périnatales, avec votre travail sur le fœtus, et puis l'autisme ou l'adoption, les exemples cliniques que vous avez travaillés. Et donc, dans votre livre, Le bébé du sentiment d'être au sentiment d'exister, vous écrivez les deux composants être et exister sont fort différentes dans la mesure où le sentiment d'être est sans doute inhérent à tout organisme vivant, alors que le sentiment d'exister fait référence à l'extérieur, à l'environnement et aux objets relationnels qu'il compose. Alors, ma question, c'est effectivement, est-ce que votre désir de savoir, de chercher, qui est à mettre ou non en rapport avec ces premiers clivages, où finalement vous retrouvez peut-être la question de la co-thérapie et de l'éducation, je pense à l'autisme en particulier. Disons que, est-ce que votre désir est animé par l'étude du bébé particulièrement, qui remet en cause certains clivages, comme vous l'indiquez, entre le corps et l'esprit, quoi.
Voilà, c'est chez le bébé, le Descartes, il fait beaucoup de mal. Même si j'étais enseigné à parler d'éclosion, c'est pas ça, c'est pas parler d'Écartes. Enfin, pareil, pour le bébé, Descartes, c'est pas fameux. Hein. Il y a un réalisme qui ne marche pas du tout. La pensée ne s'exprime pas à corps, le corps et la pensée ne font qu'un. Absolument, en tout cas chez le tout petit. Je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais je vais essayer. Quand même. Bon, vous êtes gentil, mais ces trois exemples que vous avez pris, les consultations conjointes sur l'autisme et l'adoption, c'est pas des territoires que j'ai inventés. Je suis la troisième génération, ils existaient déjà. J'essaie de m'y inscrire parce que je les trouve effectivement très intéressants. Très motivant, mais c'est quand même pas l'invention de ma part. Alors j'en profite quand même, puisque vous parlez de l'autisme, il faut, quand on est dans une faculté comme celle-ci, il faut vraiment ça nous concerne tous, les attaques forcenées contre la psychanalyse dans l'autisme masquent mal en fait les attaques forcenées contre la psychanalyse en général, et les attaques forcenées contre la psychanalyse en général masquent mal les attaques contre le soin psychique. Purement et simplement, au profit de techniques beaucoup plus comportementales et rééducatives et très très réductrices, qui sont intéressantes, mais pareil tout seul, et les attaques contre le soin psychique masquent mal, et ça le concerne tous, des attaques contre les sciences humaines. Là, c'est quand même extrêmement grave. Pour moi, la psychanalyse fait absolument partie, non pas des sciences expérimentales, mais des sciences humaines. Elle a sa légitimité en tant que science humaine, pas en tant que science expérimentale. Il faut qu'on soit tous dans le même combat, parce que attaquer les sciences humaines, c'est quand même la pensée dangereuse. Plus que dangereuse. Donc, j'en profite quand même aussi pour dire que, en ce moment, on a vraiment senti ça à la Cour des comptes, là. On voit bien que, et on ne va pas ramasser la vapeur à nous tout seul, hein, mais comment en tenir compte, hein. C'est-à-dire que l'ennemi public numéro un du néolibéralisme, c'est l'inconscient. C'est aussi simple que ça. L'ennemi public du néolibéralisme, c'est le conflit intra-psychique, et c'est l'inconscient, parce que le néolibéralisme fonctionne sur la concurrence interpersonnelle. Et tout ce qui est conflit intra-psychique et qui risque de ralentir la production ou la consommation, est un danger pour le néolibéralisme. Donc il y a toute une théorisation. Hein. Et l'attaque contre la psychanalyse, l'autisme en général, c'est pas spécifiquement en France, c'est dans le monde entier, parce qu'en ce moment, on est dans une atmosphère néocapitaliste néolibérale qui a vraiment, et qui a ses propres théoriciens. On voit très bien comment c'est pas. C'est le conflit intrapsychique et l'ennemi public numéro un. Je vous conseille vraiment de regarder, jeter un coup d'œil si vous avez le temps, c'est pas un livre psy. Moi, je l'ai lu cet été, il est assez long, mais il est vraiment extrêmement intéressant, de Barbara Stiegler, qui s'appelle « Il faut s'adapter », qui raconte bien l'histoire de tous ces débats qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Bon, encore une fois, notre travail n'est pas à nous tout seuls de lutter contre les néolibéralistes, mais de bien savoir ce qu'il en est pour pouvoir s'organiser quand même par rapport à ça et continuer notre travail. Voilà, alors, c'est vrai que vous dites... que s'aventurer quand même dans des terrains un peu particuliers, le bébé, que la psychanalyse s'aventure dans des terrains un petit peu particuliers, le bébé, l'autisme, je vais essayer de répondre sur ces deux choses-là. Il y a presque 100 ans, en 1926, au passage d'ailleurs, je dis, j'aime bien dire en ce moment, il y a une tyrannie de l'impact facteur. Il faut publier, il faut s'adapter, il faut publier. Voilà. Et on dit aux gens, si vous ne publiez pas, c'est gravissime. Bon, peut-être. Mais moi, je dis quand même aujourd'hui, on met en épingle certains articles, en neurosciences ou autre chose. Je ne suis pas sûr qu'on en parlera encore dans 100 ans. Alors, c'est même là qu'il exerce la tyrannie de l'impact facteur. Et quand il prise Freud, il se trouve que Freud, on en parle encore 100 ans. Je leur souhaite de même de venir à leurs travaux. Je referme cette parenthèse un tout petit peu
il a beaucoup
similaire, peut-être. Hein. Bon, en tout cas, en 1926, ça fait presque 100 ans, Freud a écrit l'inhibition symptômes et angoisse, qui était la réponse à son élève chéri de l'époque, Otto Rank, 2 ans avant, le traumatisme de la naissance. Et le traumatisme de la naissance, Freud avait d'abord beaucoup aimé ce texte. Et puis on le voit s'énerver un petit peu entre 1924 et 1926, au travers de diverses correspondances. Et finalement, il écrit l'inhibition symptômes et angoisse, dans lequel il y a cette fameuse phrase sur la césure de la naissance. Il y a peut-être, dit Freud, beaucoup plus de continuité entre le prénatal et le postnatal que l'impressionnante césure de la naissance pourrait nous le faire croire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, en dehors du problème en lui-même? Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, Freud s'est aperçu que son fils chéri de 1924, finalement, ce qu'il lui avait dit, c'est, je résume beaucoup, hein, mais c'est l'Œdipe, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Il faut aller voir ce qui se passe en pré-Œdipe. Et il y a eu beaucoup de résistance, effectivement, pour que les psychanalystes aillent explorer la période pré-Œdipienne, c'est-à-dire la période pré-symbolique, la période pré-verbale, et ça dure encore dans certaines de nos sociétés, vous le savez bien, des gens merveilleux qui ont beaucoup apporté en fait à ceux qui s'occupent du bébé, comme André Green, disait la psychanalyse, avant le langage, c'est pas sa place. Mais bon, c'est ce qui l'empêche qu'il a dit des choses essentielles pour ceux qui s'occupent du bébé. Vous voyez, il y a des grosses résistances. Et il y a de grosses résistances aussi pour le prénatal. Je crois que vous avez parlé de Ferenczi, là il parle encore dans ce colloque, mais il y a de grosses résistances aussi par rapport au prénatal, d'où notre travail avec Sylvain Missonnier sur le fœtus bébé au regard de la psychologie, parce qu'on aimerait déployer une métapsychologie, prénatale, qui nous permet d'être une topique du lien, qui nous serait utile pour être psychanalyste avec des bébés qui n'ont pas encore le langage, avec des autistes qui ne l'ont pas du tout. Voilà, alors je dis ça parce que s'occuper des autistes du point de vue psychanalytique, ça impose absolument de se dire que le langage, c'est pas que les mots. Et les enfants autistes, quand on s'occupe, moi je n'ai pas du tout l'impression de trahir quoi que ce soit. Parfois, on parle, vous savez, des psychanalystes purs et durs. Hein, c'est quoi les psychanalystes purs et durs? Je suis obligé de faire vite parce que j'en entends pas. Les psychanalystes purs et durs, c'est ceux qui s'occupent d'adultes névrotiques. Et moi, je m'occupe d'enfants, voire de bébés, voire de femmes enceintes, hein, et en tout cas d'enfants autistes aussi qui ne parlent pas, et je ne me sens aucunement impur et mou. Je dis simplement qu'il faut adapter nos outils. Le bébé, les enfants autistes ne nous réclament aucun renoncement à nos repères habituels, la théorie des pulsions, l'après-coup, surtout, le théâtre, mais ils nous demandent une topique
très normal qu'on soit un petit peu différent. Et les enfants autistes, en fait, demandent quelque chose. Ils ne demandent pas forcément quelque chose. Quand on s'occupe d'enfants autistes, on s'aperçoit qu'ils ont une demande. Ce n'est pas une demande peut-être adressée spécifiquement à telle ou telle personne, bien différenciée, ils n'en sont pas là. Mais c'est une demande vers l'extérieur, une demande de renvoi, une demande de rebond, une demande de retour de quelque chose. Et ils le font. Pas toujours avec des mots, mais ils le font avec leurs gestes, avec leur corps. Et c'est vrai qu'on explore tout ça, mais je ne me sens absolument pas transgressif, ni avec les bébés, ni avec l'enfant autiste, par rapport au corpus psychanalytique, qui est un corpus vivant et qui doit pouvoir s'ouvrir, s'élargir. C'est certainement possible.
Si on reste sur le bébé, si j'ai suivi tes livres depuis 1999, du corps à la pensée, j'ai découvert le bébé chercheur, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, on a découvert le bébé poète, puis le bébé musicien.
Quand on est poète et chercheur, on est philosophe.
Et maintenant, aujourd'hui, tu nous parles du bébé philosophe.
Oui, bon, c'est des figures, c'est des images, hein, pour stimuler la pensée. Et là, ça me permet de répondre à la question que vous posez. Mais elle est là, en fait. Elle est là. C'est-à-dire que, et je pense que c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui cherchent à transmettre, soit enseigner, soit former, soit on peut faire la même chose, mais ça vous avez déjà beaucoup travaillé cette question-là. C'est qu'il y a une loi assez ancienne, la psychosociologue des années 20, donc c'est vieux, Elliot Jack, au Canada, je crois, vous l'avez évoqué. Qui dit que toute institution court toujours le risque de s'organiser à la longue à l'image du problème qu'elle prend en charge. Ça a été repris ensuite par Joseph Leger, et plus récemment encore par René Roussillon. Lui parle de force de pénétration agie de la problématique clinique dont on parle dans le modèle de pensée, dans le pratique. L'exemple qu'il prend toujours, c'est le narcissisme. Et il dit, le narcissisme, si on y prend pas garde, nous amène vers une vision solipsiste de sa constitution. Or, le narcissisme se construit dans la relation. Et le narcissique peut-être va hyper investir quelque chose de son atmosphère personnelle, mais il a construit ça dans la relation, dans son histoire, dans ses interactions. Il y a besoin de l'objet pour construire un narcissisme. Hein. Alors, c'est un assez bon exemple. Mais pour être encore plus schématique, on pourrait dire que l'autisme autistise. C'est pas une question de contagion comme le Covid, c'est une force de pénétration agie. Certains hôpitaux de jour se sont absolument insularisés. La dépression déprime, bien sûr, et la maltraitance, un enfant maltraité peut rendre maltraitant ensuite des familles d'accueil et des institutions. Si on ne prend pas garde, on ne peut se laisser happer par les fonctionnements même de l'enfant. Alors la question, c'est une façon de répondre à cette question, c'est que quand on s'occupe d'éduquer, d'enseigner ou de former les bébés, les enfants et les adolescents, leur processus de fonctionnement à eux vont nous impacter. Si on s'occupe de bébés, ça, le risque, c'est que le bébé utilise beaucoup le clivage et les projections, maintenant, c'est que ceux qui s'occupent du bébé risque d'être pris dans les images des projections. Vous avez parlé de l'adolescence avec Laurent Moussier, avec Marie-Rose Moreau. Les processus psychiques de l'adolescent risquent aussi l'impulsivité, d'imprégner même notre pratique. Et il faut évidemment un lieu tiers, une analyse de pratique, pour ne pas se laisser taper là-dedans. Voilà, c'est ma façon de répondre.
On a une question qui intéresse nos auditeurs.
Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Bernard Koch, sur votre travail avec Marie Bio?
Ah, c'est
un mémoire pour son éducation ici. Oui.
Je sais,
et donc, Bernard Koch va régulièrement, je crois, dans la classe de Marie Bio, qui est enseignante en histoire.
Depuis 13 ou 14 ans.
Voilà. Ouais. En première et enfin, en
seconde. Première ou seconde.
Voilà.
Parce que. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire, c'est que depuis longtemps, on sait en psychologie, en psychopathologie, en pédopsychiatrie, qu'il y a des fonctionnements chez l'adolescent, et il y a des réactivations chez l'adolescent de fonctionnements psychiques très propres au bébé. Les adolescents ne sont pas seulement des ancien bébé, bien entendu. Mais il y a des mécanismes qui, là, la projection, différentes choses, qui reprennent beaucoup de services chez l'actualité, chez les adolescents, la remise en jeu de schémas d'attachement, enfin toute une série de. Et de fait, les adolescents sont absolument fascinés par les bébés. À Necker, dans l'unité d'observation qui est faite pour les tout petits, de temps en temps, il arrive qu'on hospitalise, on fait attention pas trop, mais des préadolescents ou même des parents, ils sont aussi perturbés soit-ils, il ne faut pas qu'ils soient violents, mais s'ils sont déprimés, par exemple, fascinés par les bébés qui sont sous. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi que je voulais dire, c'est que on les voit regarder ce bébé du dehors. Et on sent bien qu'ils retravaillent quelque chose du bébé qu'ils ont été. Donc je disais souvent lors des différentes réunions que ce serait vraiment important d'un point de vue de la prévention générale d'aller parler des bébés aux adolescents. Et donc j'avais répété ça à plusieurs reprises, et un jour Marie Bio, si vous la connaissez, vous savez que c'est une personne petite, qui se lève et qui me dit « Monsieur Goll, c'est très intéressant cette idée-là, mais je vous ai déjà entendu plusieurs fois le dire, est-ce que vous l'avez fait ?» Alors je lui ai dit « Ben non, mais j'y pense. » Alors elle me dit « Qu'à cela tienne, venez. » Dans la classe, je suis professeur de lycée à Romilly-sur-Seine. Et puis j'étais content, je me suis dit « Tiens, ça c'est tout préparé. » Bon, l'enseignement pris, c'est quand même 120 km. Hein. chose promise, chose due. Donc depuis une petite quinzaine d'années, j'y vais chaque année au printemps. Pas dans la classe du bac, hein, parce qu'il y a trop de bac, mais en seconde ou en première, parler des bébés aux adolescents. Hein. Ah, j'utilise des films, différentes choses, enfin, je passe aux détails. C'est une des choses que je fais dans la vie professionnelle que je préfère. Ils ouvrent les yeux comme ça. C'est-à-dire qu'à nouveau, je les vois regarder, écouter ce qu'on leur dit, regarder ça. Et ça c'est pas de l'enseignement, ça, c'est une transformation sous nos yeux. Parce qu'ils se rebranchent sur l'enfant qu'ils ont été. Et quand je dis enfant qu'ils ont été, ça commence à être beaucoup plus long, ça. C'est à la fois l'enfant qui les ont été, mais l'enfant qui les aurait aimé, et l'enfant surtout qui les a peur. Ça réactive quelque chose, ça revitalise, ça remet en vie cette trace basique très enfouie au fond d'eux. Et ce sont des moments magiques. J'y vais deux fois d'intervalle, parce que comme je leur passe un film la première fois, je vais en faire un peu d'après-coup, quelques jours après, pour savoir ce qu'ils en ont pensé. J'ai eu dans ces lieux-là des questions qu'on ne m'avait jamais posées. Dans les congrès les plus sophistiqués. Il y a la dernière fois, il y a une adolescente qui m'a dit, ben oui, en écoutant tout ça, on ne savait pas que les bébés pensent, on ne savait pas que les bébés ressentent, on ne savait pas tout ça. Bon. Et alors du coup, qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que ça fait à un bébé d'être élevé dans une dictature? Personne ne m'a jamais posé cette question. Alors j'ai d'abord dit que c'était une magnifique question, qu'on ne m'avait jamais posé nulle part, le temps de penser à la réponse. J'ai dit, écoutez, c'est vraiment important. Ce qui me semble, dans la l'étude, c'est que les dictatures cherchent à apprendre aux gens à ne penser qu'une seule chose sur chaque chose. Alors que la liberté de penser, c'est de pouvoir penser plusieurs choses simultanément sur une même chose. Et de ce point de vue-là, pour les bébés, si vraiment on est dans une ambiance aussi contrainte, je ne pense pas que ce soit profitable. Mais c'est incroyable, hein. Chaque fois, il me faut un petit cadeau quand je m'en vais là-bas. Et la dernière fois, il m'avait donné un biberon, justement, avec plein de petits mots dedans, que j'ai lu quand je suis revenu à Paris. Alors, il avait des très gentils, bon, merci d'être venu, enfin, merci d'être venu si loin, effectivement. On ne savait pas que les bébés pendent, on ne savait pas que les bébés peuvent souffrir, enfin, je leur raconte des choses sur la maltraitance, etc. Un petit mot, c'était on vous souhaite un bel avenir. J'avais plus les petits doigts sous les yeux, enfin, je voyais que c'était très, un peu tard, mais très gentil. J'ai vraiment l'impression, là du coup, je ne suis pas du tout dans l'enseignement. Je suis vraiment dans une espèce de formation qui est la levée d'un certain refoulement sur, je crois beaucoup, sur l'enfant qu'il craint d'avoir été, et qui peut-être peut le paralyser, et qui pour nous, dans la profession de l'enfant, c'est très important aussi, parce qu'on choisit des métiers auprès des enfants des autres, pour différentes raisons, mais il y a ce fantasme-là. J'ai l'impression d'avoir souffert de ceci et de cela, et je vais aller m'occuper des enfants des autres pour leur éviter de vivre ce que je crois, à tort ou à raison, d'avoir vécu moi-même. Donc, c'est des moments un peu magiques. Je crois qu'on peut tous réfléchir, même du point de vue du département d'éducation. sur les regards, l'enfant qu'on a peur d'avoir été.
Tu supportes encore une dernière
petite question. Moi, tout à fait, ça, après, c'est douloureux.
Une dernière. Sur ce que tu appelles souvent la métapsychologie du lien et de la rencontre, je crois que c'est une question fondamentale pour nous, pour plusieurs d'entre nous qui développons dans nos pratiques une physique du lien professionnel. L'une de tes hypothèses serait que le bébé peut se représenter psychiquement le lien avant de pouvoir se représenter l'objet.
Alors, je peux dire un petit mot et d'ailleurs faire un lien là aussi avec des choses que j'ai entendues tout à l'heure pendant la table ronde à propos de l'incertitude. Alors, c'est peut-être parce que j'ai été mon analyse s'est faite avec Guy Rosolato qui avait proposé un très beau concept qui était l'angoisse de l'inconnu, la relation d'inconnu et l'angoisse de l'inconnu, qui est très important. C'est l'angoisse de l'inconnu est probablement la chose la plus, une des angoisses les plus fortes. Chez l'être humain. Tout à l'heure, je disais que l'enfant maltraité peut rendre maltraitant l'institution de famille d'accueil, parce que ce qu'il a connu jusque-là, c'est les adultes maltraitants. Et même si on lui promet quelque chose de plus bienveillant, ça lui fait peur parce que c'est inconnu et il s'accroche à ce qu'il connaît, même si c'est du douloureux, et finalement, il va essayer, c'est pathétique, de transformer en maltraitant des adultes qui viennent pour autre chose et au contraire l'aider et être bienveillant. Ça me fait penser aussi à ce que, il y a des interviews merveilleuses de Jean Giono, qu'on peut encore trouver à la fin de sa vie à propos de la douleur physique, et je crois que c'est vraiment pareil pour la douleur psychique. À propos de la douleur physique, dans ses entretiens, il dit « Le scandale de la douleur, c'est que même la douleur peut devenir familière. » Et on s'accroche à ce qui est familier en ayant peur de ce qu'on ne connaît pas, même si on nous dit que ce qu'on ne connaît pas est prometteur, et bien, sans doute plus positif que ce qu'on a déjà connu. Voilà. Alors, le problème de la question que je vous pose à propos du lien, effectivement, avec les enfants autistes, avec les bébés, on cherche une topique du lien qui soit un petit peu en deçà de la topique classique de l'objet. C'est qu'il apparaît de plus en plus que l'enfant peut se représenter le lien avant même de se représenter l'objet. Quand je l'ai vu ici, il y a 50 ans, 60 ans même, disait, ça fait couler beaucoup d'encre, l'objet peut être investi avant d'être perçu. Et on ne savait pas trop ce qu'il avait voulu dire là, c'était un peu énigmatique, mais très stimulant. Alors aujourd'hui, on s'est dit que l'enfant, le bébé, qui est un clinicien incroyable, qui les observe, un clinicien de nos émotions, de nos affects, il envoie des signaux, il attend de voir comment ça revient, est-ce que ça revient, est-ce que ça revient comme d'habitude ou pas comme d'habitude, est-ce que les réponses sont fortes ou douces, immédiates, différentes, modales, transmodales, enfin, voilà, incroyable, chercheur pourrait, enfin, philosophe, il essaie de faire une théorie du monde qui l'entoure, qui arrive dedans. Quand le bébé a repéré les réponses de ceux qui prennent soin de lui en termes d'attachement ou en termes d'accordage affectif. S'il est capable de se dire, tiens, ma mère, elle est plutôt unimodale, immédiate et accentuée. S'il ressent ça, c'est très important, parce que ça lui permet de savoir si au fil des jours, sa mère est toujours comme ça et si les autres sont différents. Mais ça ne dit rien que la mère elle-même. Ça ne dit rien de la mère elle-même. Elle ne se dit pas si elle est grande, petite, jeune, moins jeune. Blonde, brune, que sais-je, tout ça est intéressant, mais c'est des caractéristiques un peu statiques. Lui, il va d'abord se faire un portrait rythmique de l'autre, c'est-à-dire un portrait abstrait. Et Geneviève Vague, qui est morte il y a quelques mois, là, malheureusement, disait, mais c'est dans le développement du bébé, c'est un peu comme dans le développement de l'art dans l'humanité. Elle s'appuyait beaucoup sur les travaux d'André Leroy-Gourhan au fil du temps, qui avait montré que les grottes de Lascaux, c'est des grottes figuratives, avec des scènes de chasse, de pêche, des empreintes, de nains. Mais il a montré que dans des grottes beaucoup plus anciennes, des centaines de millions d'années avant, on trouve des dessins, des tableaux, enfin pas des tableaux, des peintures, dont on ne sait pas ce qu'elles voulaient dire, mais sont totalement abstraites. Des barres, des ellipses, des ronds, des choses merveilleuses. Qu'est-ce que ça représente? On se rend là, mais des alternances de saisons, de jours, de nuit. Et André Leroy-Gourhan disait que l'art abstrait est né dans l'humanité bien avant l'art figuratif. Et je devais dire, ben pour le bébé c'est pareil, il se fait d'abord un portrait figuratif abstrait de sa mère, avant de pouvoir s'en faire un portrait figuratif. Le portrait figuratif, c'est la représentation de l'objet. L'art abstrait, le portrait abstrait de la mer, c'est la représentation des liens. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et pensez aussi au jeu du Forda, et ça répond vraiment à la question, le jeu de la bobine. Ça n'est possible. Pourquoi est-ce que le bébé joue et supporte la... C'est plus tout à fait un bébé, c'est un enfant. Enfin, pourquoi est-ce que l'enfant joue et supporte l'absence, la disparition visuelle et la réapparition visuelle de la bobine, comme objet symbolisant peut-être la mer, c'est parce qu'il a en continu la ficelle. Dans le jeu de la bobine, la ficelle est encore plus importante que la bobine. Il nous faut une représentation mentale continue des liens pour supporter l'absence et l'alternance absence-présence dans la réalité extrême. C'est vrai dans la cure aussi. On ne supporte l'absence et la présence de l'adulte que parce qu'entre-temps, on peut y penser en termes de lien.
Merci beaucoup.
Est-ce
qu'on a quelques questions?
3 minutes.
Sans micro, hein. Sans micro.
Oui.
D'accord. Oui.
On a
quelques temps. Bon. Merci encore, Gold. Je vous ai déjà remercié la remarque que vous m'avez faite par rapport à la traduction espagnole là, de la phrase de Goethe. Et c'est vrai parce que j'ai découvert, comme vous l'avez bien entendu, l'image de la conquête est toujours là. D'ailleurs, il faut rappeler que Freud avait toujours ces métaphores militaires. Bon. Alors, j'ai pris connaissance d'une traduction française, il y a un peu plus que 10 ans, et c'était un peu à la suite, parce qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire, et donc je me suis dit, bon, on va avoir une autre traduction. Parce que bon, la traduction portugaise que j'ai connue est très mauvaise, bon, donc voilà, alors je suis allé à la bibliothèque voir la traduction française. Et c'était suite justement à une petite conversation avec une petite fille à qui je pose en français la question comment ça s'est passé à l'école, elle est allée à la petite section, et donc elle me répond aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé. Alors quand j'ai entendu la réponse en français, je me suis dit mais ça va pas, parce que j'entendais en espagnol, je venais d'arriver littéralement à Paris, j'étais à l'Amérique latine. Et donc, pris dans la langue espagnole, et donc on ne dit jamais travail à l'école. Hein? On utilise un autre mot. Et c'est justement à partir de cela qu'il a fait une clic. Et je me suis dit, mais bien sûr, la petite a raison. Il faut travailler, et on se fait une place. C'est ça. Et merci pour ce bel dissertation.
J'ai juste cité, c'est Maria Torok.
Maria Torok, qu'on ne connaît pas encore assez en France, mais une psychanalyste qui s'est le plus intéressée au lien entre la psychanalyse et l'éducation, en parlant de cette part active du bébé qui est coacteur de son développement, mais aussi de ses processus d'apprentissage.
Patrick ?
Non, très rapidement, mais associativement par rapport à la question formidable posée par l'adolescente de Venezuela dictature, j'ai pensé au dernier livre de Georges Guy Berman. Pardon ? Plus fort ? Par rapport à la question de l'adolescent à propos de l'enfant né sous la dictature, ça me faisait penser au dernier livre de Georges Didier Huberman, Le témoin jusqu'au bout, qui est sous-titré Lecture de Victor Klemperer, et qui parle très très bien de cette manière dont la dictature assigne par la langue une pensée univoque, etc. Voilà, il y a quelque chose à attendre là. Et puis après, si j'avais eu le temps, mais on ne le fait pas, à propos du complémentarisme, j'ai eu l'occasion de travailler récemment avec des gens très influencés, alors dans le domaine du médico-social, très influencés par les apports de la psychothérapie institutionnelle, et qui ont mis en place un dispositif de type constellation transférentielle pour accueillir ce que les professionnels qu'ils rencontrent éprouvent au contact d'un enfant qui est désigné comme posant problème. Alors, ce n'est pas la constellation transférentielle classique avec adaptée au transfert dissocié, psychoté, etc. Mais c'est une adaptation un peu de cette pensée-là pour mettre en place un outil. Je me disais que ça, c'était un outil de lutte contre la servitude volontaire.
vous avez sans doute raison. Mais la constellation conférentielle, elle est fondée sur le principe des projections.
Absolument.
Parce qu'elle est faite pour rassembler les projections. Donc c'est vrai que pour les enfants très archaïques, les adolescents difficiles, c'est des outils de travail indispensables.
Merci.
Merci. Merci.
C'est une grosse bête, hein. Hein, c'est une grosse bête, hein.
Bah quand même.
Comment?
Oui, quand même. Oh, bah, le boulot, on est...
Comment?
Le boulot.
C'est vachement intéressant sur la narrativité aussi, ce qu'il oui. explique, c'est vachement intéressant.
Pour s'en sortir, il va falloir qu'on prenne un champ. Tu vois, c'est bien hein, cette modalité là comme ça.
Oui, mais attends, c'est qu'en face, il a des gens qui s'y connaissent. Ou alors tu les réinvites, eux ils seraient peut-être ravis de lui reposer des questions, de continuer là.
Gerti, il est celui qui a coordonné un bouquin dans la même collection que ça sur les trois métiers impossibles en fait.
Parce que bon, il faut, tu vois, là c'est des gens qui posent des questions, ils savent quelles questions poser. Hein. Remarque, je pense qu'à partir de n'importe quelle question, il dirait.
C'est près du Bourcan, là, c'est pas mal.
C'est le jeudi matin 9 février.
C'est les vacances, non? C'est les vacances,
non? Ah non, ça ne doit pas être les vacances.
Non, la
La courbe, je dis.
Je peux arriver, j'ai cours le matin à Orléans de 8 à 10 et ensuite de 13 à 15 à Fleury. J'ai un train à 15h40, donc je peux être là à 16h30.
C'est le matin.
Ah, c'est que le matin. Sinon, je sais. Je sais pas. Ah, parce qu'il faut que je vois. Je peux peut-être demander.
Des possibilités de déplacer tes heures.
Alors, en fait, en chinois, c'est très compliqué parce qu'ils sont dans plein de classes différentes. Enfin, comme les autres.
Pas autorisation d'absence.
Et en fait, moi, pour récupérer des heures, c'est quasiment impossible. En fait, ils se sont déjà arrachés les cheveux pour les emplois du temps. Et.
Le vendredi, t'as cours?
Ouais. Le vendredi, j'ai cours le matin et j'ai une heure l'après-midi. Ouais. Là, en fait, si l'année prochaine je continue, je vais leur dire que je veux mon vendredi libre. Je veux mon vendredi libre. Je vais leur dire juste ça. C'est vous me laissez mon vendredi. De toute façon, j'ai même pas un temps plein. Enfin, je veux dire, me mettre mes heures sur 3 jours, quoi. S'arranger.
Parce que tant que tu perds sur les transports.
Comme ça, si j'ai vendredi de libre, comme souvent il y a des colloques, des choses, ça me permet de.
Attends.
Et si je suis pas prise, je vais retenter psycho. Et si je suis pas prise, je ferai un. Enfin, je pense que je m'inscrirai un DU. Un DU psychanalyse, il y en a à l'université. Paris Université, là, enfin, enseignement Paris 7. J'ai vu qu'il y en avait, je me dis, bah, en attendant, je peux commencer avec ça. Alors, c'est après ce vendredi, c'est pas tous les vendredis, mais c'est. En général, c'est le vendredi aussi.
Alors normalement, là, je viens de faire passer un truc, un circulaire, je ne sais pas d'où ça sort, c'est une collègue qui m'a envoyé ça pour faire une demande d'autorisation d'absence pour des colloques. Logo EducNat en fonction de l'école académique de la formation continue. Et elle m'envoie ça, elle me dit tiens pour.
Ça va bien ensemble, je trouve.
Je ne sais pas ce que c'est.
Alors, je voudrais d'abord vous dire quelques mots, est-ce que ça va, sur. Sur le travail en amont des ateliers. Lors de nos réunions du comité d'organisation, a émergé un désir de favoriser, à partir des communications, un travail en groupe d'élaboration clinique qui serait en même temps un temps de respiration au sein d'un programme dense de conférences, de tables rondes, de symposiums. J'ai eu envie de me pencher sur le comment favoriser ce travail clinique. Alors, d'abord en 2 heures prévues pour les ateliers, pas plus de 4 communications et donc 10 ateliers. Et lors du travail de répartition des communications dans ces 10 ateliers, nous avons opté pour proposer à un communicant de remplir la fonction d'animateur qui pourra œuvrer à ce travail clinique. Alors pour aller dans ce sens, il nous a semblé souhaitable de suggérer à ces animateurs de proposer la possibilité d'un échange des résumés entre les 4 communicants depuis l'été jusqu'en septembre et peut-être de prévoir un temps de rencontre entre eux avant le congrès. C'est dans cette perspective que j'ai proposé une séance de travail en visio avec les 10 animateurs dans la perspective d'un partage des expériences et d'une réflexion collective sur ce rôle d'animateur d'atelier dans ce congrès. Parallèlement, avec Véronique Canangisseur et Esther Souvelchuk, nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions introduire un dispositif d'écriture conçu comme un temps de respiration ludique qui pourrait faire l'objet d'un partage en plénière, comme une esquisse poétique en mouvement, ou comme le dirait Barthes, le bruissement de la langue. Nous avons donc proposé ce que nous avons appelé un temps d'écriture furtive, quelques mots à attraper au vol, des nuages de mots fabriqués ensuite par Esther. Alors je vais vous lire la lettre que m'a adressée Esther ce matin. Je pense que ça éclairera un petit peu la façon dont on a proposé ce dispositif. Chère Françoise, quand vous m'avez fait part de votre projet de faire écrire les participants au congrès suite aux ateliers, j'ai trouvé cela ambitieux. Puis j'ai compris qu'il n'y avait pas 2 heures pour écrire en plus des ateliers, mais 2 heures en tout. Avec les ateliers. Bon, comment vous dire que cette information m'a plongée dans une certaine incertitude, incertitude quant à la faisabilité du projet. Il fallait écrire vite, très vite. J'ai pensé que dans mon métier de l'éducation,